à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique australe. Au Mozambique, les secouristes redoublent d'efforts pour sauver des milliers de personnes toujours réfugiées sur des arbres et des toits après le passage du cyclone Idai dans le pays et au Zimbabwe voisin en fin de semaine dernière. Le tout dernier bilan du désastre au Mozambique, au moins 300 morts. Le président mozambicain Philippe Nyusi s'est rendu dans la région la plus affectée pour évaluer personnellement l'étendue des dégâts. Bagasikoura.
D'après les informations qui nous ont été données ici en arrivant sur le terrain, on est déjà à plus de 200 morts, a déclaré M. Nyusi à la fin d'un conseil des ministres qui se tenait à Beira, dans le centre du pays, une région en partie détruite par le cyclone. Le précédent bilan officiel faisait état de 84 morts dans cette région de Beira. Près de 350 000 personnes sont actuellement en zone inondée, selon le président. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, a-t-il estimé, ajoutant que le gouvernement avait déclaré un deuil national de 3 jours à compter du 20 mars. Sur le plan matériel, 23 000 habitations, 30 unités de santé et 507 salles de classe ont été détruites, selon les autorités mozambicaines. Par ailleurs, les secouristes étaient engagés mardi dans une course contre la montre pour sauver des milliers de personnes toujours réfugiées sur des arbres et des toits 5 jours après le passage du cyclone Idai en Afrique australe, qui pourrait être le plus meurtrier jamais survenu dans la région.
Au Vatican, le pape François fait part aujourd'hui de sa douleur face aux effets désastreux du cyclone. Le souverain pontife a aussi appelé à soutenir les sinistrés. « Je confie les nombreuses victimes et leurs familles à la miséricorde de Dieu et j'implore le réconfort et le soutien pour tous ceux qui sont touchés par cette calamité », a déclaré le pape argentin devant des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre à Rome pour son audience générale du mercredi. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a effectué des changements à la tête de la très redoutée et critiquée Agence nationale des renseignements, l'ANR. Le patron de l'ANR, Kalev Mouton, actuellement sous sanction de l'Union européenne, est remplacé par son numéro 2, Inzoun Kakiak, selon une ordonnance présidentielle lue sur la chaîne d'État RTNC. Très proche de l'ancien président Joseph Kabila, l'administrateur de l'ANR sortant, est l'une des 14 personnalités congolaises sanctionnées par l'Union européenne pour la répression des manifestations de l'opposition pendant les dernières années du régime de Joseph Kabila. Toujours en République démocratique du Congo, réaction défavorable du mouvement pour la libération du Congo, le MLC, aux décisions de la réunion interinstitutionnelle qui a suspendu, entre autres, l'installation du nouveau Sénat après des allégations de corruption. Le parti de Jean-Pierre Bemba estime que cette réunion n'a pas de pouvoir légal pour prendre des décisions et demande que les investigations s'étendent également à la présidentielle du 30 décembre. Edi Sango a rejoint le secrétaire général adjoint du MLC, Fidel Babala.
Je suis étonné que l'amateurisme et l'amalgame élisent difficile au sommet de l'État, où un organe qui n'a aucun pouvoir de décision puisse prendre des décisions qui impactent la vie de toute une nation. Vous vous souviendrez que cette réunion a été convoquée suite au coup de klaxon de quelques motards ou motocyclistes, soi-disant appartenant au parti du président nommé, M. Félix Tshisekedi. Et c'est sur base de cela qu'on prend toute une nation en otage, qu'on suspend, même si on n'a pas la compétence de le faire, on ose faire des annonces pour avoir l'ambition de suspendre un cycle électoral. Ils n'ont pas le pouvoir. Ce sont des décisions qui n'ont aucun effet.
Quand même, vous êtes aussi peut-être victime de cette corruption.
Nous sommes totalement d'avis qu'il faudra arriver de manière tout à fait appropriée à lutter contre la corruption qui commence à devenir très endémique dans notre pays. Mais pourquoi on exclurait les élections présidentielles ou de l'avis de toute la planète? Il y a une vaste tricherie. Cette tricherie a impacté les élections législatives aussi. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la majorité de la population ait voté pour les changements, qu'on élise les députés, et c'est totalement antinomique. Mais bon, comme l'institution présidente de la République aujourd'hui est une émanation de la tricherie, nous vivons cela. Si on doit pouvoir faire des enquêtes, qu'on remonte jusqu'à la présidentielle aussi. Pourquoi faire la demi-mesure ?
Fidel Babala, le secrétaire général adjoint du MLC à Kinshasa en RDC.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, des affrontements sur fond de grève des enseignants ont opposé hier élèves et policiers à Abidjan. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
Les enseignants d'une grande partie des écoles primaires et secondaires sont en grève depuis près de 2 mois. Ils réclament de meilleurs traitements et conditions de travail. L'université Félix Oufouette-Boigny a connu 6 semaines de grève des professeurs avant une suspension début mars. Selon plusieurs témoignages, des élèves et étudiants voulaient empêcher les cours de se dérouler dans des établissements où la grève n'est pas suivie. Un groupe d'élèves et étudiants de la FESI, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, en furie est venu pour déloger leurs camarades de Mermoz à Cocody, a expliqué un témoins, ajoutant qu'ils ont été empêchés par les policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Des incidents similaires se sont déroulés devant le lycée moderne de Cocody, où des policiers ont fait usage de lances à eau pour disperser des élèves qui ripostaient en leur jetant des pierres. Les grèves sont récurrentes en Côte d'Ivoire depuis 2 ans, malgré la signature en août 2017 d'une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire pour environ 130 000 fonctionnaires.
La lutte contre les djihadistes dans la Corne de l'Afrique, AFRICOM, le commandement militaire américain en Afrique, dément les accusations d'Amnesty International faisant état de victimes civiles dans les frappes américaines en Somalie. Le point avec Anne Albertson.
Amnesty International affirme que 14 civils ont été tués ces 2 dernières années dans des frappes aériennes américaines en Somalie. Des accusations que les militaires américains démentent énergiquement. L'ONG de défense des droits de l'homme a publié mardi un rapport fondé, selon elle, sur les déclarations de 65 témoins, plusieurs photos, des images satellites et des posts sur les médias sociaux. AFRICOM, le commandement américain en Afrique, souligne qu'aucun civil n'a été tué dans les frappes contre les djihadistes Shebab et que le rapport d'Amnesty International ne reflète pas correctement les efforts extraordinaires déployés par AFRICOM pour éviter de faire des victimes civiles. Les frappes américaines sont effectuées en coordination avec le gouvernement somalien et sont caractérisées par une politique de grande retenue, précise AFRICOM.
La lutte contre les djihadistes en Afrique du Nord, en Tunisie, 3 djihadistes liés au groupe État islamique ont été abattus par les forces de sécurité tunisiennes qui ont également saisi des armes lors d'une opération dans la région de Kasserine, dans le centre-ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministère de l'Intérieur. Le porte-parole de la garde nationale a précisé à l'AFP que les 3 djihadistes tués étaient membres du groupe Jun al-Khalifa, les soldats du califat affiliés à l'État islamique. En Algérie voisine, un membre influent du Rassemblement national démocratique RND, principal allié du FLN, le Front de Libération Nationale au pouvoir, a jeté un pavé dans la mare en déclarant mardi soir que le pays avait été dirigé ces dernières années par des forces non constitutionnelles. C'est Dick Chiab a dit à la chaîne privée El Bilad que l'Algérie a été gouvernée par ces forces durant au moins ces 5, 6 ou 7 dernières années. Et ce, alors que le président Abdelaziz Bouteflika est confronté à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir. Actualité américaine, pour terminer, ici à Washington, le président Donald Trump a loué la proximité sans précédent entre les États-Unis et le Brésil. Son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, en visite aux États-Unis, a affiché un pro-américanisme très marqué, qui tranche avec la tradition de la diplomatie brésilienne, Eric Manirakiza.
Au-delà d'une passion commune pour les tweets et d'un goût revendiqué pour la provocation, l'ancien magnat de l'immobilier et l'ex-parachutiste sont à l'unisson sur nombre de sujets, de leur rejet du multilatéralisme à la dénonciation de l'accord de Paris sur le climat. Vous faites un travail fantastique, vous avez rassemblé votre pays, a lancé le président Trump depuis les jardins de la Maison-Blanche. Le président brésilien s'est dit convaincu que le milliardaire serait réélu en 2020. J'ai toujours admiré les États-Unis et cette admiration est devenue encore plus forte après votre prise de fonction, a dit Bolsonaro. Ils ont insisté sur une coopération économique renforcée. Monsieur Trump s'est dit prêt à accorder au Brésil le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN et a même évoqué à la stupeur générale une possible adhésion de la première puissance économique d'Amérique latine à l'Alliance atlantique. De son côté, le président Bolsonaro a annoncé qu'il autoriserait les États-Unis à lancer des satellites depuis son centre spatial d'Alcantara. Les deux hommes ont aussi affiché leur unité sur le Venezuela, faisant encore monter la pression sur le président Nicolas Maduro, dont il réclame avec force le départ. Un peu plus tôt, devant les journalistes, les deux hommes avaient échangé des maillots des équipes de football de leur pays. Je m'en souviens encore de Pelé, a lancé M. Trump, louant les qualités de la Seleção.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.